Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er. Alors, Colossiens, c'est l'Épître où il est le plus parlé de Jésus-Christ. On appelle ça une Épître christocentrique, puisque le centre, c'est Christ. Et donc, chaque passage apporte un autre aspect de la personne ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous Jésus-Christ dans le projet de l'Église. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ avait un projet, et ce projet, c'était de faire des églises? Donc, quand vous entrez ici, l'Église biblique baptiste amiénoise, vous voyez un petit local bien aménagé, très sympathique, mais ce local existe parce que Jésus-Christ a un projet pour fonder des églises partout dans le monde. Et on va voir ça un peu plus en détail. On va d'abord lire versets 18 à 29. Chapitre 1er, Colossiens 1, à partir de verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qui est sur la terre, ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors là, nous sommes dans le projet de l'Église. Dans les versets 16 et 17, juste avant, vous avez Jésus-Christ dans le projet de la création. Jésus-Christ a créé l'univers entier. Les astronomes nous disent que l'univers est en constante expansion. Est-ce que vous saviez cela? Que les galaxies s'éloignent les unes des autres, que l'univers grandit, et en fait, elle grandit de plus en plus vite. Ça, normalement, les choses ralentissent avec le temps, mais l'univers va de plus en plus vite en agrandissant. On voit la puissance de Dieu qui fait grandir l'univers. Mais la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Donc Dieu est plus grand que l'univers. L'univers n'arrivera jamais à atteindre la taille de Dieu. C'est incroyable. Et il est donc, le créateur de l'univers, il est avant l'univers, il a tout imaginé dans l'univers depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, et il maintient l'univers, à chaque seconde c'est lui qui le maintient, et il est le but de l'univers. Tout a été fait par lui, pour lui. Et donc, ça c'est son rôle par rapport à l'univers. Ça, c'est un grand projet que Dieu avait de faire l'univers et de créer l'humanité, et tout a été fait par Jésus-Christ. Mais il a un autre projet, c'est fonder cette Église. Cette Église, c'est la compagnie de tous ceux qui vont recevoir Christ dans leur cœur depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc ça fait 20 siècles que ce projet dure. Et il y a des millions et des millions et des millions de gens qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur partout sur la planète depuis 20 siècles. Et tous ces individus forment un corps dont Jésus-Christ est la tête. Et un jour, tous ces gens seront réunis dans le ciel et seront présentés à Jésus-Christ comme son épouse. Alors, on trouve ça un peu mystérieux que des millions de gens puissent constituer une épouse pour Jésus-Christ. Et Paul dit, oui, ce mystère est grand. Hein. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Et pourtant, comme dans un couple, le mari et la femme s'aiment et vivent l'un avec l'autre dans l'intimité et dans la joie, de la même manière, Jésus a préparé un logement dans lequel il nous recevra et nous vivrons pour toujours avec lui dans l'intimité et dans l'amour et dans la fidélité, comme dans un bon mariage. Ça, c'est le projet de l'Église. Donc, Jésus-Christ est la tête de cette Église. On voit donc que quand une fois que Dieu a créé l'univers, les planètes et tout cela, le sixième jour de la création, il a fait son chef-d'œuvre. Vous et moi, l'être humain. Nous sommes le couronnement de cette création. Nous sommes le sommet. Nous avons été créés pour vivre en communion avec lui. Vous imaginez, si vous voulez, vous êtes un jeune homme avec beaucoup de ressources, peut-être beaucoup d'argent, vous faites une magnifique maison avec un beau jardin, et puis il y a des arbres fruitiers, puis vous dites maintenant, je vais trouver une femme pour venir vivre avec moi dans cette magnifique maison, et vous trouvez une jeune fille formidable, et puis vous vous épousez, et puis vous lui dites, viens maintenant, je vais te montrer la maison que j'ai préparée pour toi, et puis alors, c'est magnifique. Le jardin, tout est parfait. Elle dit, mais tu dois beaucoup m'aimer pour avoir fait une si belle maison. Ce que Dieu a fait pour lui, il a fait une magnifique planète, il a fait un magnifique univers. Mais tout ça, c'est du décor. C'est juste le décor. Ça n'a pas trop d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est nous, l'humanité. Dieu nous aime et veut vivre en communion avec les humains. Et donc, dans son plan éternel, Dieu le Père, on le voit bien ici, verset 18, la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, Dieu veut réunir tous ceux qui croiront en lui en un groupe qui va fonctionner comme un corps. Pas juste comme un groupe, vous savez, un groupe, ça peut être un peu hétéroclite, il y a des gens, enfin, voilà, c'est pas très uni, c'est juste un groupe dans la même pièce. Mais encore, c'est parfaitement coordonné, tout fonctionne ensemble. Et le but de Dieu, en créant l'Église, en créant cette Église ici, c'est qu'en étant ensemble les uns avec les autres, chacun assume un rôle. C'est un peu comme si on pouvait venir ensemble et l'un dit, moi je me sens que je suis une main, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Un autre dit, mais moi je suis un coude, moi j'ai envie de mettre des gens ensemble et un peu coordonner les choses. Un autre dit, moi je suis un cœur, moi j'ai envie de montrer de l'amour aux gens qui entrent dans ce local et montrer l'amour de Dieu. Un autre dit, moi je suis actif, j'aimerais bien être un pied. Dieu crée chacun avec des dons différents et ce qui est le plus beau, c'est que ça se coordonne et que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde est épanoui dans son rôle et que tout le monde regarde les autres qui sont épanouis dans les leurs et dit « c'est merveilleux, on fonctionne ensemble, on est complémentaires les uns avec les autres ». Tout ça dirigé par Dieu, ça c'est sur le projet de Dieu. Et donc, quand on entre dans une église, et quand on se convertit, et quand on s'identifie à Christ par le baptême, et on fait partie de ce corps, c'est la démarche naturelle et voulue par Dieu, que l'on regarde un peu quels sont les besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que Dieu me pousse à faire, et dire aux autres, est-ce que je peux faire ceci, je vois qu'il y a un besoin là, et les autres, oui, oui, mais c'est bien, vas-y, essaie, et puis, oui, ça marche, Abel, c'est là ta place, c'est ta place dans le corps. Et puis, le corps harmonieusement travaille ensemble. Ça, c'est le projet de l'Église. Ça, c'est le projet de Jésus-Christ. Mais Jésus est la tête. C'est lui qui dirige tout le corps. Il donne tous les ordres. La tête, vous savez, votre tête n'est pas très grande par rapport au restant du corps, mais la tête dirige tout. Hein. Il n'y a aucune action que fait le corps sans que la tête ne donne des ordres. Et si vous avez le Parkinson ou une maladie nerveuse comme ça, et vos mains commencent à trembler sans que la tête ne donne l'ordre de bouger, c'est une maladie. Si la tête ne commande pas comme il faut, c'est une maladie. Et donc, pour une église d'être saine et une église d'être en bonne santé, tous les membres écoutent la tête. Tous les membres disent « Seigneur, dirige-moi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » La tête, le Seigneur doit tout diriger. Et tous les membres du corps doivent l'écouter. Et donc, notre église, l'église du Seigneur est appelée à vivre éternellement au ciel. Jésus a frayé un chemin pour son église. Regardez, il a frayé un chemin. Verset 18, « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Pour vivre avec le Seigneur dans le ciel, il faut mourir et ressusciter. Il faut vivre, il faut avoir un corps nouveau. On ne peut pas juste partir d'ici là avec notre corps et partir au ciel. Il faut que notre corps soit glorifié. Il faut que notre corps soit changé pour pouvoir vivre dans le ciel. Et Jésus, il a frayé le chemin. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a préparé, il prépare le lieu. Et bientôt, soit nous mourrons, soit Dieu nous transforme et nous partons à sa rencontre. Il est allé avant nous et il est le premier. Il est le premier à l'avoir fait. Il est le premier à être arrivé au ciel. Il fallait qu'il arrive avant nous pour préparer le lieu. Et nous allons le rejoindre. C'est ce qu'il dit ici. Il faut qu'il soit le premier partout. Mais en plus de ça, Jésus est non seulement la tête de l'Église, non seulement il est le premier à être passé par la mort et la résurrection pour monter au ciel, il est notre précurseur, mais il est aussi complètement Dieu. Il est tout Dieu. Tout Dieu est en lui. Et on le trouve dans le mot plénitude. Regardez verset 19. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Vous dites plénitude, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot plénitude avait un sens au premier siècle qu'on ne comprendrait peut-être pas aujourd'hui. Au premier siècle, il y avait une secte qui enseignait une fausse doctrine. Cette fausse doctrine, c'était que Dieu le Père était totalement 100% Dieu pur. Et que Dieu le Fils n'était pas totalement Dieu. Il était Dieu, mais une qualité inférieure. Un peu comme s'il avait quelques impuretés. Pas des impuretés, mais comme une photocopie de Dieu. Mais pas une très bonne photocopie de Dieu. Il était Dieu, mais pas tout à fait Dieu. Et il disait que Dieu avait fait des émanations de lui qui descendaient en qualité, en qualité, en qualité, en qualité. Jusqu'à ce qu'il y ait un Dieu tellement de mauvaise qualité, qui s'appelait Demiurge, qu'il a créé le monde matériel. Et ces gens-là enseignaient que tout ce qui est matériel est mauvais. La matière est mauvaise. Le corps est mauvais. Tout ce qu'on voit est mauvais. Et seul ce qui est invisible et spirituel est pur. Voilà ce qu'ils enseignaient. Alors les uns, ils disaient « Mon corps est mauvais, mon esprit est bon. » Ils prenaient un fouet et ils se frappaient. Ils se fouettaient. Ils se faisaient du mal pour punir leur corps d'être encore matériel. D'autres, ils s'embêtaient moins. Ils disaient, ah, puisque mon corps est tellement pourri, tellement mauvais, puisqu'il est matériel, je vais le laisser aller en boîte de nuit et faire les 400 coups et boire, et mon esprit sera en contemplation, et mon corps fera ce qu'il voudra. Ça faisait moins mal, hein? Mais les deux partaient du principe que le corps était mauvais. Et que tout cet ensemble de ce qu'ils appelaient Dieu, ça s'appelait la plénitude. Mais il disait, la plénitude ne peut pas loger dans un corps. La plénitude est uniquement spirituelle et invisible. Comprenez ce qu'il disait, ok? La plénitude est uniquement spirituelle et invisible. Regardez ce qu'il dit. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Autrement dit, il dit, Dieu a voulu que Jésus-Christ, entièrement Dieu, vive dans un corps. Si Christ qui était entièrement Dieu vivait dans un corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps n'est pas mauvais. Notre corps, non seulement il n'est pas mauvais, mais il est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre corps. Donc, au lieu de mépriser notre corps, au lieu de souiller notre corps, nous devons le conserver le mieux possible. Nous devons le garder pur le plus possible, car avec ce corps, nous pouvons servir Dieu. Le corps n'est pas notre idole. Le corps non plus n'est pas à mépriser. Notre corps est un merveilleux outil que Dieu nous a accordé, pour lequel nous devons être reconnaissants et dont nous devons nous servir pour glorifier Dieu et pour le servir. Vous ne pouvez rien faire pour Dieu sans votre corps, à part prier. Mais si on veut agir, si on veut travailler, si on veut témoigner, on fait appel au corps. Et donc le corps, Dieu, la Bible nous donne une vue saine de ce qu'est notre corps. Il n'y a rien de sale, il n'y a rien de souillé, il n'y a rien de mauvais dans notre corps. C'est une création merveilleuse de Dieu dans laquelle nous sommes logés. Parce que vous et moi, on n'est pas un corps. Nous sommes une âme et un esprit qui logeons dans un corps. Un jour, ce corps tombera dans la terre et nos amis nous enterreront. Mais nous continuerons à vivre pleinement, âme et esprit. C'est vraiment qui nous sommes. Mais donc, Jésus, il est totalement Dieu et il est devenu un homme. Il est resté totalement Dieu tout en devenant totalement humain. Mais ce que Jésus n'avait pas, que vous et moi nous avons, c'est la nature pécheresse. Il n'avait pas de nature pécheresse. Donc, Jésus est la tête de l'Église. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le décor, qui est l'univers. C'est lui qui est en train de constituer son Église. C'est lui qui fait que son Église devienne un corps. Et d'ailleurs, l'idée, l'Église est un corps, c'est surtout pour les assemblées locales. Nous ne pouvons pas collaborer toutes les semaines avec toutes les églises du monde. Elles ne sont pas avec nous et nous ne sommes pas avec elles. Mais chaque église locale, dans sa localité, doit chercher à fonctionner en harmonie, en complémentarité. Et chaque église peut se réunir et délibérer qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'église, pour faire connaître l'évangile dans notre localité. Que pouvons-nous faire? Et chacun peut mettre son don spirituel à la disposition de Dieu. Et il n'y a rien de plus beau que de voir une église qui fonctionne comme un corps pour toucher sa localité pour le Seigneur. Mais Jésus-Christ n'est non seulement la tête de l'Église, il est aussi le réconciliateur. Et on voit un énorme problème entre Dieu et nous. Vous avez vu dans le verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Si Dieu dit, je veux réconcilier l'humanité avec moi-même, c'est qu'entre nous et lui, il y a un froid. Si entre nous et lui, il y a un mur. Parce que pas besoin de réconcilier les gens s'ils sont en paix. Quel est le problème dans le verset 21? Le problème, c'est nous. C'est pas lui, c'est nous. On le voit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Voilà où nous étions. On n'a pas uniquement fait de mauvaises actions. Nous avons une mauvaise manière de penser. En général, les êtres vivent comme si Dieu n'existait pas. Vous dites, ah ben non, moi je sais que Dieu existe et je suis en train de le prier, je suis en train de lire la Bible. Oui, mais vous, vous avez été réconciliés par Christ. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Évangile, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils disent bien, je crois qu'il y a quelque chose, hein, mais ça ne m'affecte pas, ça n'affecte pas ma manière de vivre. C'est tout théorique. Et donc, on vit comme si Dieu n'existait pas, il est loin, il est étranger, on est séparé, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne communique pas, je ne le connais pas, et je ne sais même pas s'il existe. Voilà la situation de l'homme en dehors de Dieu. Donc Dieu le Créateur vit dans un univers qui était parfait, mais le péché a fini par l'atteindre. Il y a Satan, Lucifer, et ses hordes d'anges déchus. Et puis il y a l'humanité et sa nature pécheresse. Donc le résultat du péché a marqué la création, et même la terre souffre à cause du péché. C'est très intéressant qu'en Romains 8, Paul il parle de la création comme si la création pouvait parler. Vous allez dans des beaux champs autour d'ici, et puis la belle forêt autour d'Amiens, on est venu par des magnifiques paysages aujourd'hui, et vous dites, mais c'est tellement bien, je pense que ces plantes sont très heureuses d'être là, elles ont l'air épanouies. Mais si les plantes pouvaient nous parler, et si les animaux pouvaient nous parler, elles diraient, les plantes et les animaux, ils diraient, ah, vous, très bien, vous savez, vous avez tout gâché quand même. Hein. Adam et Ève, ils ont péché. Regardez comment vous traitez la planète. Regardez comment vous traitez les uns les autres. Il y a des forêts, des arbres qui pourraient dire, j'étais là quand les hommes sont venus, ils se sont tués, et vous avez des cimetières partout, avec des croix partout dans la région. Mais l'humanité, mais vous êtes horrible. Mais vous vous traitez tellement mal, mais c'est à cause du péché. Et il nous tarde que le péché soit réglé, et que la planète soit libre du péché, et que Dieu change les hommes, et que Christ vienne vivre sur la terre. Là, vous garantis, ça ira mieux. Si la création pouvait nous parler, c'est ce qu'elle nous dirait. La Bible dit en Romains 8, la création tout entière souffre les effets du péché et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création attend que Jésus descende et qu'il règle tous les problèmes que les hommes ont commis par leur péché. Donc, Dieu, le Créateur, vit dans un univers marqué par le péché, abîmé par le péché, sali par le péché, par nos péchés. Et l'homme, il ne peut pas régler ce problème. C'est lui le problème, c'est le pécheur. L'homme ne peut jamais de lui-même se réconcilier avec Dieu. Il est coupable, il est incapable. Nous ne pouvons rien faire pour rembourser à Dieu le mal qu'on a fait. Rien. Jésus a opéré cette réconciliation. Il a opéré cette réconciliation entre l'homme et Dieu par sa mort substitutive à la croix. Vous connaissez Romains 6, 23, n'est-ce pas? Car le salaire du péché, c'est la mort. Un pécheur mérite la mort. Le péché mérite la mort. Quelqu'un doit mourir. Soit le pécheur, soit un substitut pour le pécheur. Mais le substitut, il ne faut pas qu'il soit un pécheur. Parce qu'il ne pourrait jamais payer pour les péchés d'un deuxième. Imaginez, vous avez trois meurtriers qui se viennent devant le juge. Chacun a tué cinq hommes. Le juge dit, je vous condamne tous à 20 ans de prison. Puis il y en a un qui dit, écoutez, monsieur le juge, moi, je veux bien prendre la place des deux autres. Il dit, vous ne pouvez pas prendre la place des deux autres. Vous avez tué cinq personnes, lui, il a tué cinq personnes, et ton autre collègue a tué cinq personnes. Vous êtes trois meurtriers. Vous ne pouvez pas remplacer les autres meurtriers. Chacun de vous doit passer 20 ans. On pourrait peut-être, à la limite, dire, le premier, s'il veut prendre les deux autres, il va passer 60 ans en prison. 3 fois 20 ans. Hein? Mais il ne peut pas dire, je prendrai la peine des 20 ans de mes autres et je fais 20 ans. Ah, le juge va dire non. Il y a 3 fois 20 ans. Tous les trois doivent aller en prison. Et donc, aucun de nous ne peut payer pour les péchés de quelqu'un d'autre. Nous avons nos propres péchés à payer. Mais Christ, qui n'a pas péché, peut prendre nos péchés sur lui et payer le prix, et payer le prix de tous les péchés, puisqu'il est infini. Son sacrifice, tout en Jésus est infini. Son sacrifice est infini, sa vie est infinie, son salut est infini, sa résurrection est infinie, sa vie est infinie, tout est infini. Donc il peut payer de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps, en une seule fois, parce que son sang a une valeur infinie. L'homme peut accepter cette réconciliation ou il peut la rejeter. Mais en tous les cas, elle a été faite. Elle a été faite une fois pour toutes. Et nous le voyons dans le verset 20. Dieu le Père, regardez encore le verset 20. Dieu le Père a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, la paix est acquise. Les gens ne vont pas en enfer parce que ils ne peuvent pas faire la paix avec Dieu. Les gens vont en enfer parce qu'ils refusent la paix que Jésus leur offre. La paix a été acquise, la paix est offerte. La réconciliation est offerte. Et donc, Paul montre comment ce projet de réconciliation nous a affectés. Regardez verset encore 21. Vous étiez étrangers et ennemis. Étrangers, ennemis. Des pensées sales, des actes sales. Et regardez ce qui se passe. Verset 22. Une fois qu'on est réconcilié, on va paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. De l'état d'une ultime saleté, nous passons à une propreté parfaite. Une propreté parfaite. Totalement purifiée. Même pas l'odeur du péché sur nous. Parce que Christ a payé pour nos péchés. Selon l'Église catholique romaine, Jésus a payé pour le péché originel. C'est-à-dire, il a payé parce que Adam a péché. Il a payé pour la nature pécheresse. Mais chacun doit payer pour ses propres péchés. C'est ce que dit enseigne l'Église. Et comme ils pensent que la plupart des fidèles n'arrivent pas à payer pour tous les péchés qu'ils ont commis pendant leur vie, c'est-à-dire qu'ils commettent 10 kilos de péché, puis ils font 10 kilos de purification, non, ils pensent que jamais personne n'arrive à liquider tous ses péchés avant de mourir. Et donc, où est-ce qu'il va? Il va au purgatoire. Mais pourquoi? Pour purger les péchés qu'il doit encore payer. Et les évêques de France, récemment, on leur a demandé combien de temps faut-il pour un catholique moyen de se purger de tous les péchés. Ils pensent à peu près 4 siècles. En moyenne. Vous imaginez? Mais non, ils se trompent. Pour purger nos péchés, 4 siècles ne suffiraient pas. Nous ne pourrions rien faire qui puisse enlever nos péchés. Ni en 4 siècles, ni en 10 siècles. Mais Christ les a tous payés. C'est pour ça, il n'y a pas de purgatoire. Purgatoire, ça veut dire que l'homme doit payer pour ses péchés. C'est impossible. L'homme lui-même est un pécheur. Christ est mort pour nous. On est sauvé et purifié par lui, pas par nous. Et donc, nous étions loin de Dieu, on était dans l'animosité, on est réconciliés. Et donc, l'objectif, ce que Dieu veut pour nous, verset 22, et il veut que l'on devienne fondé et inébranlable dans la foi. Il veut qu'on arrive à une pleine maturité. Il veut que nous grandissions dans le Seigneur. Il dit, je vous purifie de vos péchés, c'est pas pour vous laisser là. Dire, bon, mais voilà, je suis propre, maintenant j'attends que Jésus vienne me chercher. Il dit, non, je t'ai rendu propre, je t'ai purifié, maintenant je veux te voir grandir en maturité. Tu as compris, Jésus va nous montrer, tu as compris que j'ai payé pour tes péchés. Mais maintenant, puisqu'on a une relation, puisqu'on est réconcilié, je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu me connaisses mieux. J'ai tant de bénédictions à te donner. Je veux que tu les découvres. Il ne faut pas t'asseoir là en disant, ça y est. Vous imaginez un enfant qui finit le CP, cours préparatoire. Et il dit, voilà, moi j'ai achevé le CP, maintenant je vais aller chercher du travail. Je suis prêt, j'ai fait le cours préparatoire. Donc, je suis prêt. Pas besoin d'aller plus loin. On dirait, mon pauvre, tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Tu n'es pas du tout prêt à travailler. Tu as fait la première année, il y en a 11 de plus, plus la fac. Bon, ça le décourage quand vous êtes en CP ou CE1 et on vous dit plus que 10 ans à tirer. Moi, je me souviens quand j'avais 7 ans, je dis, non, jamais je n'y arriverai. 10 ans, c'est plus vieux que ce que j'étais à l'époque. Hein? C'est décourageant au possible. Mais le Seigneur veut juste qu'on grandisse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on n'a jamais fini de grandir. Mais c'est beau de grandir. C'est beau de développer une vie plus intense avec le Seigneur, de mieux l'apprécier, de mieux le connaître. De dépendre de lui, et parfois il permet des épreuves. Qu'est-ce que je vais faire? Mais compte sur moi. Et on compte sur lui, on passe l'épreuve. Ah oui, oui, j'ai vu. Ah, je peux compter sur Dieu. Puis une épreuve plus grosse. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Mais compte sur moi comme la dernière fois. Ah oui, d'accord, je compte sur lui. Et on sort de cette deuxième épreuve. Et puis une troisième épreuve, plus grosse que les deux premières. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Mais qu'est-ce que je dis les deux dernières fois? Ah oui, il faut que je compte sur toi. Ah, ça y est, ça, je crois que ça commence à rentrer. Hein? Et à force, au bout du compte, on commence à compter sur lui automatiquement, tous les jours, à chaque heure. Quand il y a des épreuves et quand il n'y en a pas, je compte sur lui. Tu dis, c'est ça que je voulais te faire apprendre. Compte sur moi, inconditionnellement. Et c'est comme ça qu'on arrive à la maturité. Et puis, Christ et ses collaborateurs. Donc, Christ, la tête de l'Église, Christ, le réconciliateur entre nous et Dieu, et Christ et ses collaborateurs. On voit que le Seigneur Jésus a des collaborateurs, et heureusement. Jésus-Christ, et ça, on ne sait pas pourquoi. Jésus-Christ n'a pas voulu faire le travail tout seul. Il a fait notre rédemption tout seul. Il a payé pour nos péchés tout seul. Il nous sauve tout seul. Mais pour bâtir son Église, il ne veut pas travailler seul. Il choisit des hommes et des femmes pour l'aider. Chaque enfant de Dieu est appelé un collaborateur de Christ. Mais il a choisi aussi certaines personnes pour conduire le troupeau. C'est ses collaborateurs au sein des Églises. On les appelle parfois pasteurs, parfois anciens, parfois responsables, mais en tous les cas, sont des collaborateurs de Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul s'appelle ministre. Vous dites, oh, mais ne prends pas pour la queue d'une prune. Ministre, c'est quand même bien. Hein? Pense au ministre du gouvernement. Le mot ministre veut dire simplement un serviteur. C'est tout ce que ça veut dire. Juste un serviteur. Dans le verset 23, j'étais fait ministre. Je suis un serviteur. Alors, verset 24 nous surprend un petit peu. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. On dit, attends, je croyais que Jésus-Christ a subi la peine de notre péché. C'est lui qui a souffert pour nous. Est-ce qu'on est sauvé par Jésus et un peu par Paul aussi? Est-ce que Jésus n'a pas tout souffert? Est-ce que Paul doit aider Jésus à nous sauver? On a l'impression, hein? Non, pas du tout. Jésus a payé pour notre péché. Entièrement. Notre salut vient entièrement de lui. Il est monté au ciel. Que fait Jésus dans le ciel aujourd'hui? Est-ce qu'il est assis sur son trône à ne rien faire? Voilà, j'ai fini, je suis en vacances. Jésus sur son trône est en train de prier pour nous. Il prie pour nous pour qu'on grandisse en lui. Et il nous travaille en nous par son Esprit Saint. Et Paul, il montre les serviteurs de Christ qui travaillent avec Christ. Ils souffrent quand ils voient le péché entrer dans la vie des enfants de Dieu. Et ça arrive à tous les pasteurs, à tous les responsables, à tous les chrétiens fidèles. Ah tiens, ça fait un tel temps, tel combien de semaines quand tel ne vient pas. On dit pas, bon, de toute façon, il vient quand il veut. Hein, ça ne m'empêche pas de vivre. Non, on t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais non, j'avais quelques problèmes, j'étais un peu découragé, et puis je ne sais pas si je reviendrai. Oula, la souffrance s'intensifie. Mais pourquoi tu ne reviendrais pas? Et quelqu'un m'a pas dit bonjour, quelqu'un m'a blessé, alors je ne pense pas que je vais revenir. Mais non, mais reviens et tout. Et puis, on souffre. Quand les gens s'éloignent de Dieu, on souffre. Quand Paul entendait les gens dire d'autres doctrines que la parole de Dieu, il souffrait, il avait peur, il était inquiet. En couple, la maman souffre quand le bébé est né, les douleurs de l'enfantement. On dit, ouf, je ne veux pas retraverser ça bientôt, c'était dur. Mais l'enfant est né. Mais elle n'a pas fini de souffrir. Et son mari n'a pas fini de souffrir, parce que quand il grandit, il devient rebelle. Et il souffre moralement. Ce n'est plus les douleurs de l'enfantement, c'est l'inquiétude. Est-ce que mon enfant va bien tourner? Est-ce qu'il va devenir un criminel? Est-ce que ça, c'est la souffrance de développement de l'enfant, de savoir quelle direction il va prendre? Et parfois, les enfants nous brisent le cœur. Et donc, les serviteurs de Dieu, ils regardent grandir les enfants de Dieu, et s'il y a de la désobéissance, ils souffrent. C'est ce que veut dire Paul. Christ, non seulement il a souffert pour qu'on puisse naître de nouveau, mais il souffre à mesure que nous grandissons. Si on n'est pas obéissant, il est inquiet, il souffre, il intercède, et ses serviteurs le font aussi. Et puis, les collaborateurs de Dieu, ils ont la charge d'apporter toute la révélation de Dieu à l'Église. Ils ont appelé à apporter le message à tout être humain. C'est là, on le voit ici. Voyez verset 23, l'évangile prêché à toute créature sous le ciel. Ça, c'est l'évangile. Verset 24, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Verset 25, il dit, pour l'Église, j'ai été fait ministre pour que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Il dit, ça, ce n'est pas uniquement l'évangile, c'est toute la doctrine de la Bible. Je dois enseigner toute la doctrine de la Bible continuellement à toutes les églises. Donc, évangéliser, donner de la bonne nouvelle, voir les gens venir au Seigneur, souffrir quand ils ne mûrissent pas comme il faut, et leur enseigner toute la parole de Dieu continuellement jusqu'à la fin de la vie. Et donc, il dit, regardez maintenant, verset 28, et nous terminons. Parce que là, il résume un peu dans le verset 28. Il dit, verset 28, c'est lui, c'est Jésus-Christ que nous annonçons. Vous avez remarqué, on n'annonce pas juste une doctrine. On n'annonce pas juste un catéchisme. C'est pas, voilà, j'ai ce livre, vous lisez ce livre, on fera un test. Je veux que vous sachiez ces concepts. Il dit non, tout ce que vous avez besoin de savoir est dans la personne de Christ. Et donc, on enseigne une personne. Nous l'annonçons, ça c'est annoncer comme je le fais aujourd'hui. Exhorter, ça c'est l'appliquer à nos vies quotidiennes. Comment est-ce que je dois vivre ça le mardi? Comment cette vérité va-t-elle m'affecter dans ma décision ce vendredi? Ça c'est l'exhortation. L'application à notre vie de tous les jours. Et instruisant tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Est-ce que, à force, est-ce qu'on va sur cette terre devenir parfait? On a l'impression que c'est ce que Paul veut dire. Il dit, j'enseigne pour enseigner à tous les hommes devenus parfaits en Jésus-Christ. Le mot parfait veut dire mûr, mûr. Quand on a un garçon de 10 ans, on dit, ah, qu'est-ce que tu es beau. Mais il n'est pas encore parfait. C'est-à-dire, il n'a pas encore la taille qu'il va avoir adulte. Il n'a pas encore les muscles qu'il va avoir adulte. Il n'a pas encore les compétences qu'il va acquérir quand il sera adulte. Mais quand il aura 30 ans, ça sera un bel athlète avec des muscles. Et puis une bonne intelligence dans la force de l'âge, on dit, ah là, notre jeune homme est devenu parfait. Il est à la taille d'adulte, il a toute la force. À partir de maintenant, hein, ça va diminuer. Pleine maturité. Il dit, je vous enseigne toute la parole de Dieu continuellement, et si vous le prenez, si vous le recevez, si vous le méditez, si vous le mettez en pratique, vous allez devenir des chrétiens mûrs, adultes, solides. Et dit, je travaille à ça, j'agonise à ça, c'est ma mission pour la vie. Et il dit donc, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On voit que c'est une lutte finalement. C'est une lutte. Quand une famille inconvertie ou chrétienne, quand les parents sont très sérieux, quand ils enseignent leurs enfants, quand ils montrent un bon exemple devant leurs enfants, quand leur enfant suit leur exemple, quand leur enfant les remercie à 20 ans de toute l'éducation qu'il a reçue, quand il les remercie pour le bon exemple qu'ils ont montré, quand on voit qu'il est bien orienté, qu'il est bien discipliné, qu'il est travailleur, qu'il est honnête, que tout le monde l'aime, qu'il a du talent, qu'il met... Les parents disent, ah! Oh, quelle joie cet enfant! Quelle joie cet enfant nous apporte! Mais s'il n'écoute pas, s'il devient rebelle, s'il perd son temps, s'il n'étudie pas, s'il vit comme un clochard, les parents vont dire, mais quelle souffrance! Nous ne pouvons pas penser à notre enfant sans pleurer. Paul dit, Dieu m'a appelé à le servir. Et mon rôle, ma passion, c'est d'aider les gens à comprendre tout ce qu'ils ont en Christ, à être obéissant, à être mûr, à grandir dans le Seigneur, à être reconnaissant, à être solide, à témoigner fidèlement, à être à leur place dans l'Église, à être des piliers pour Dieu. Il dit, je travaille à ça avec la force de Dieu qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul a mis son corps à la disposition du Seigneur. Il dit, voilà Seigneur, je veux parler, je veux bouger, je veux voyager, je veux rencontrer des chrétiens, je veux rencontrer les inconvertis, je veux leur témoigner, je veux les enseigner, mais avec ta force qui agit en moi. Et maintenant Seigneur, il faut que toi, tu fasses pénétrer dans leur cœur ces vérités pour qu'ils soient transformés. Il dit, c'est la raison pour laquelle je vis. Et donc Dieu a besoin à chaque génération d'avoir des collaborateurs de ce genre-là. La force, les moyens et l'énergie pour réaliser ces missions viennent de la puissance de Jésus-Christ lui-même. Et cette puissance nous est promise. Elle nous est promise. Elle nous est garantie. Si nous suivons ce modèle-là que nous avons vu ce matin, si nous vivons dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur, nous pouvons vraiment nous réjouir, mes amis, nous réjouir d'avoir un tel chef, la tête de l'Église, d'avoir un tel guide, d'avoir un tout-puissant sauveur, infiniment compatissant, absolument digne de notre confiance. Jésus est digne de notre confiance et Jésus est digne de notre obéissance. Amen. Notre Dieu et Père, maintenant, prends ces paroles, nous te prions. Aide-nous à les intérioriser. Aide-nous à capter ces principes. Aide-nous à capter ces vérités. Donne-nous la joie et la paix de te servir, de prier, d'enseigner, d'aider, d'accompagner les gens pour qu'ils deviennent mûrs en toi. Nous te remercions pour ta puissance qui agit en nous quand nous faisons ce travail et nous comptons uniquement sur toi et ta force, car nous n'en avons pas en nous-mêmes. Notre confiance est en toi et nous t'adorons en Jésus-Christ. Amen.